Pele Kipila Mondo.
Le code minier congolais est très mal appliqué. Conséquence, l'exploitation du secteur minier ne profite pas au gouvernement congolais et à la population. C'est le constat de l'ONG Asado et les réseaux des médias associatifs et communautaires du Katanga. Nord Kivu, plus de 170 militaires mixés et non mixés ont quitté Goma hier, direction centre de brassage de Kamina, en vue de former la 18e brigade intégrée. Dans les Bandundu, près de 200 passagers du bateau Lukamba passent des jours très difficiles. Depuis le 20 juin dernier, ce bateau est bloqué dans une bande de sable sur la rivière Kasai. Aucune assistance pour les passagers et on dénombre déjà des morts parmi eux. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par les Katanga, 5 ans du code minier congolais. Quel profit pour la RDC? C'est autour de cette question qu'ont réfléchi l'ONG des droits de l'homme, Asado Katanga, et les réseaux des médias associatifs et communautaires de la province. Plus précisément sur la mise en application de cette loi, c'était au cours d'un atelier de 2 jours qui s'est clôturé hier à Lubumbashi. Les participants constatent que le code minier est appliqué de façon très insuffisante en RDC. Conséquence, le secteur minier, quoique très exploité, ne permet pas le développement de la République démocratique du Congo. Claude Katende, président de la SADO, Association africaine des droits de l'homme, est au micro de Madeleine Waila.
Le constat que nous avons fait est qu'il y a des entreprises qui ne respectent pas les dispositions du code en termes d'environnement, qui polluent les rivières, qui font les déboisements des forêts sans aucun programme de reboisement, qui déplacent les populations sans des indemnisations conséquentes. Dans la plupart des conventions minières, il n'y a pas comme telles des dispositions relatives à la protection de l'environnement. Le code minier refuse l'exonération des taxes comme aussi des impôts. Mais quand vous allez dans les conventions minières, vous allez trouver que beaucoup d'entreprises bénéficiaires de ces conventions sont exonérées. Et là, nous constatons qu'il y a un grand manque à gagner pour le gouvernement congolais.
Claude Katende, président de la SADO Katanga, signalant que les participants recommandent entre autres l'application effective du code minier, le contrôle des activités des industries minières au Katanga et la suppression des conventions minières qui accordent trop d'exonération aux entreprises. Province de l'Équateur, à Lissala, dans les districts de la Mongala, 2 véhicules avec des grumes ont été saisis jeudi par les parquets, puis retournés à leur propriétaire, la Sikobois, société industrielle congolaise des bois. Cette saisie a eu lieu à la suite du conflit qui oppose cette société à la compagnie forestière de l'Équateur. Les deux sociétés d'exploitation forestière se disputent la propriété d'une concession de coupe de bois située à Bombilo, à 30 km de Lissala. Récit des faits avec Ghislaine Nentobo.
Selon le premier substitut du parquet de Lissala, le magistrat Jean-Aimé Kaouka, cette concession avait été attribuée à la compagnie forestière de l'Équateur en 1996. En 2004, le ministre de l'Environnement a pris un arrêté abrogeant cette décision tout en octroyant cette même concession à la Sikobois. En 2006, indique le magistrat Kaouka, la CFE a saisi la Cour suprême de justice et a annulé ses contrats. Depuis le début de ce mois, le parquet de Lissala a demandé à la Sikobois de suspendre la coupe de bois dans cette concession en attendant la décision du greffe du tribunal. Mais la Sikobois, ajoute le magistrat Kaouka, a continué ses activités à cet endroit. Voilà pourquoi le parquet a saisi jeudi dernier les crumes que la compagnie évacue sur Lissala. Pour M. Boleko, chef du personnel de la Sikobois, les crumes évacués ont été abattus bien avant que la Cour suprême ne soit saisie de ces dossiers. Une version des faits confirmée par le procureur général de la Cour d'appel de Mbandaka, qui a d'ailleurs ordonné jeudi soir que les crumes saisies soient retournées à Sikobois. Pour ce qui est de suspendre les travaux dans la concession contestée, le chef du personnel de la Sikobois s'est réservé de toute réponse. Isala, Justin Ntobo, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, précisément, plus de 170 militaires mixés et non mixés ont quitté Goma hier après-midi pour le centre de brassage de Kamina. C'est depuis un mois que ces militaires arrivent en petit groupe à la MONUC ou au bureau de renseignement militaire T2 à Goma. Selon le coordonnateur de la structure militaire d'intégration SMI à Kamina, ces militaires vont former la 18e brigade intégrée. Gisèle Cage a assisté au départ de ces militaires et nous en parle.
C'est dans cette ambiance que ces militaires quittaient leur site de regroupement dans les quartiers Keshiro à bord des camions pour l'aéroport de Goma. Ils sont au total 178. De Goma, ils devraient rejoindre le centre de brassage de Kamina à bord de deux avions affrétés par l'état-major général des FARDC. 91 parmi eux sont venus des brigades en Mixé, Alpha, Delta, Echo et Charlie, déployés dans les territoires de Rutshuru et de Masisi. 42 sont venus de Tongo et Ngungu, où ils attendaient le mixage de la brigade Foxtrot. 4 autres militaires sont venus de la brigade Baleine de Mai Mai, basée au bord du lac Édouard. Le reste faisait partie de la garde de l'ancien gouverneur du Nord Kivu. Les militaires Mixé ont quitté leurs unités il y a environ un mois. Selon eux, ils préfèrent suivre le processus normal d'intégration de l'armée. Ce sous-lieutenant est venu de la brigade Alpha.
Je me suis rendu compte que être mixé ne signifie pas être au sein des FARDC. L'État a instauré les brassages pour que tous les militaires soient connus. Nous étions pris en otage dans les unités mixées. Certains de nos camarades ne savent pas comment sortir de là. Il n'y a pas moyen de quitter et d'aller au brassage. Notre seule chance pour arriver jusqu'ici, c'est d'atteindre d'abord la Monique. Nous sommes fatigués de vivre depuis des années dans les maquis.
Selon le coordonnateur national de la structure militaire d'intégration, le colonel Chungulo Otongo, ces militaires vont former la 18e brigade intégrée. Selon lui, toujours, toutes les brigades mixées devront suivre le brassage une fois que le gouvernement aura réuni tous les moyens. Gisèle Kachgoma, Radio Okapi.
Restons dans cette partie du pays pour parler de cette déclaration de Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qui s'est dit profondément préoccupé par la détérioration de la situation sécuritaire dans les deux Kivu. Dans une déclaration rendue publique hier vendredi, le numéro 1 des Nations Unies affirme être particulièrement troublé par les autres conséquences humanitaires, dont le déplacement interne d'environ 700 000 personnes dans la région. Le secrétaire général des Nations Unies appelle tous les acteurs de prendre des mesures politiques afin de résoudre cette crise, y compris la mise en œuvre d'une stratégie de manière à étendre l'autorité de l'État, la promotion de la réconciliation, reconstruction et développement économique au nord et au sud Kivu. Ban Ki-moon exhorte enfin le gouvernement de la RDC et tous les autres concernés de poursuivre un dialogue inclusif dans le Kivu. La formation professionnelle pour une centaine d'officiers des forces armées congolaises a pris fin hier à Kinshasa. La formation consistait en l'encadrement des troupes. L'objectif des enseignements était d'aider les bénéficiaires de cette formation à être des chefs efficaces et responsables. Les enseignements ont duré 7 semaines. Ils se sont déroulés au centre supérieur militaire à Kinshasa Ngaliema. La fin de cette formation a été sanctionnée notamment par la remise des brevets aux officiers. Hadia Chipoukou était présente à cette cérémonie.
Ce sont là les cris de joie poussés par les 105 officiers des forces armées congolaises qui viennent de terminer leur formation. Parmi eux, des ex-miliciens de l'Ituri et ont accepté de rejoindre le processus de brassage. C'est justement cette présence qui a démontré, selon le vice-ministre de la Défense Nelson Paluku, l'importance de cette formation. Elle a consisté à l'apprentissage des systèmes d'opération sur terrain, c'est-à-dire les différentes façons d'agir dans les domaines de renseignement, manœuvre, mobilité et bien d'autres exercices pratiques. La cérémonie de remise des diplômes de cet avant-midi a aussi été une occasion pour le vice-ministre à la Défense d'annoncer un appui consistant du gouvernement pour la suite.
Les infrastructures vont être rétapées, le gouvernement y mettra sa main et le génie, particulièrement pour ce qui nous concerne directement à la Défense, y mettra aussi sa main.
Pour ce qui est des partenaires, l'apport des États-Unis dans cette formation a consisté entre autres à donner ses instructeurs. Mais comment les USA entrevoient-ils la suite du partenariat militaire après cette formation? L'ambassadeur Roger Miss répond.
C'est un programme qui continue, c'est non seulement pour la formation, mais en autre matière aussi. Nous venons d'avoir un séminaire il y a une semaine avec tous les partenaires sous l'auspice du ministre de la Défense pour coordonner nos efforts, mais notre engagement va continuer toujours.
Sachez qu'un nouveau programme de formation va démarrer en septembre de l'année en cours.
Adia Chipoukou Mezol. Retournons dans le Nord Kivu avec ses débuts hier à Butembo du procès des présumés assassins du docteur Kambale Kisoni, l'homme d'affaires tué dans son bureau le 5 juillet dernier dans cette ville du Nord Kivu. L'audience d'hier a été consacrée à l'identification des accusés. Étienne Mouindo.
C'est sous haute surveillance militaire et policière que le procès des présumés assassins de Kambale Kisoni s'est ouvert au stade Matokeo de Butembo à présence d'une grande foule de gens venus pour la circonstance. Au cours de cette première audience, le ministère public a déposé devant le tribunal militaire de la garnison de Beni Butembo les différentes pièces à conviction, notamment des armes AK-47 et un pistolet. Par la suite, six détenus, parmi lesquels deux Kenyans, quatre Ougandais, sont passés un à un à la barre pour décliner leur identité. Ces hommes ne sont pas les seuls accusés à racheter le juge président, le capitaine Jean-René Nzingi. Trois autres complices sont en fuite. Ils seront jugés par défaut, a-t-il poursuivi. À la fin de l'identification, les avocats des accusés ont sollicité le report de l'audience au lundi prochain pour leur permettre de prendre contact avec leurs clients. Le procès se poursuivra dans 48 heures, a conclu le ministère public. Etienne Mwindo, Boutembo, Radio Okapi.
Évaluer la situation politique du pays ainsi que les parcours du MLC face aux enjeux politiques actuels et à venir, ce sont les objectifs que poursuit la convention politique du MLC ouverte hier à Kinshasa. Cette convention réunit les élus et les membres représentant les organes dirigeants du mouvement de libération du Congo. Dans le discours d'ouverture, le secrétaire général de ces partis a souligné que l'éloignement du pays de Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du MLC, fera également l'objet d'examen au cours de cette convention. François Mwamba donne quelques précisions quant au retour du président du MLC.
On nous a dit que pour créer un climat de confiance, un climat favorable, il fallait que le sénateur Jean-Pierre Bemba puisse mettre de l'eau dans son vin et montrer sa volonté, c'est-à-dire que s'il revenait, quel serait donc son comportement et ses attitudes compte tenu de tout ce qu'on sait sur lesquels je ne reviens pas. Il l'a fait dans un entretien qu'il a eu avec M. Louis Michel, commissaire européen. Maintenant, la suite ne dépend pas que de Jean-Pierre Bemba, ne dépend pas que de Louis Michel. Je pense que le chef de l'État, qui a été donc approché à cette fait, je n'en doute pas, précisera un petit peu comment lui-même voit les choses, mais je ne suis pas son porte-parole.
Mais ça attend encore quelque chose du gouvernement par rapport à son retour?
Rien qui concerne la République du Congo ne peut se faire par un camp ou un autre tout seul. S'agissant du retour du sénateur Jean-Pierre Bemba, président du MLC, il est clair qu'il ne va pas s'imposer dans un contexte où il faut tout de même que sa sécurité, y compris physique, soit garantie. Et donc par conséquent, c'est une matière de négociation.
François Mwamba, secrétaire général du MLC, était au micro de René Kapita Pelezo. Un message de Jean-Pierre Bemba a été lu au cours de la cérémonie d'ouverture, message dans lequel il invite les membres du MLC à la cohésion et à l'unité pour préparer les échéances politiques à venir. Dans les Bandundu, situation critique pour près de 200 passagers du bateau Lukamba qui a échoué dans une bande de sable à la hauteur de la cité de Panou, sur la rivière des Kassai à 200 km de Bandunduville. Depuis le 20 juin dernier, ces passagers sont bloqués dans cette zone sans aucun secours. On dénombre déjà à ce jour deux morts, deux accouchements prématurés, deux cas de fracture ainsi que des cas de diarrhée sanguinolente. Ces bateaux provenaient des Ilebo dans les Kassai occidentales. Fabien Kambizi.
Avec environ 80 militaires à bord ainsi que leurs familles et des centaines de civils, femmes et enfants. Tous ces passagers à bord se trouvent en situation de détresse depuis plusieurs semaines en pleine rivière Kassai au Bandundu en territoire d'Idiofa. Ils n'ont ni eau potable, ni nourriture, ni médicaments et encore moins de toilettes pour faire leurs besoins. C'est donc depuis près d'un mois qu'ils attendent du secours, mais aucune aide ne leur est parvenue. Selon la section des affaires humanitaires de la MONUC au Bandundu qui confirme cette détresse, des contacts ont été noués avec les responsables de l'ONATRA et deux passagers militaires qui ont réussi à rejoindre Bandunduville par leurs propres moyens. Ces contacts ont permis à la section des affaires humanitaires de rassembler des données nécessaires préalables à une intervention de l'unité fluviale de la MONUC dont le bateau est arrivé jeudi à Bandunduville. Selon le colonel Khalif Diop, le capitaine de la force navale de la MONUC à Bandundu, les pourparlers sont en cours avec les autorités provinciales pour secourir ces nombreux passagers du bateau en désespoir depuis plusieurs semaines. Kikwito, Fabien Kambizi, Radio Okapi.
Dans le Bas-Congo, à Mwangu, dans les territoires de Lukula, plus ou moins 150 km de Matadi, 33 villages et 400 maisons de cette zone de santé éprouvent des difficultés pendant la saison sèche. Déclaration faite à Radio Okapi par le docteur Poba Viki, médecin-chef du centre de référence de Mwangu. Selon lui, pendant cette période, les deux sources aménagées pour l'approvisionnement de la population en eau potable tarissent et cela entraîne des maladies. Le docteur Poba Viki est au micro de Dani Kindanzita.
C'est un village de plus de 400 maisons, mais avec des sources aménagées. D'ici deux semaines, puisque nous serons jusqu'à la fin du mois de juillet, notre deuxième source va tarir. Nous allons rester avec une seule source aménagée. 400 maisons, ça pose toujours problème. La schistosomiase va réapparaître. Ça pose toujours des grands problèmes chaque année. Pendant la saison sèche, nous avons des sérieux problèmes pour tout ce qui est parasitose intestinale à cause le manque d'eau. Parce qu'il faut que les malades soient accessibles à l'eau. Quand on n'a pas d'eau, l'hygiène pose problème aussi pour tous ceux qui sont et puis pour les autres malades. Si les gouvernements pouvaient bien revoir qu'il y ait au moins de l'eau potable pour chaque villageois.
Il est très exactement 8h15 à Kinshasa, une heure de plus à l'est du pays. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.